écoutez RFI Radio France Internationale. Il est 5h30 à Khartoum et à Paris, 4h30 à Londres.
Édouard Dupenoit.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première demi-heure africaine sur RFI, la capitale britannique d'abord et cette promesse. 800 millions d'euros annoncés pour les populations soudanaises victimes de 2 ans d'une guerre sans merci, la pire crise humanitaire du monde, disent les Nations Unies, et qui ne semble pas prête à prendre fin. Les FSR du général Emeti redoublent de violence en essayant de s'emparer d'El Fasher, capitale régionale dans le Darfour. La crise diplomatique qui s'embrase de nouveau entre l'Algérie et la France. Paris expulse 12 agents algériens, soit exactement la même mesure que celle décidée par Alger il y a 3 jours. Des destroyers, des porte-chars, des patrouilleurs indiens aussi dans ce journal. Des navires aussi venus d'une dizaine de pays africains. L'Inde organise ses toutes premières manœuvres navales conjointes avec une dizaine de pays de l'est du continent. Notre correspondant nous appelle de Bangalore. 4 personnes arrêtées au Kenya, suspectées d'avoir trafiqué une espèce animale. Vous avez quelques minutes pour deviner laquelle, c'est plutôt inattendu. Et puis la cruelle désillusion pour Serhou Guirassy, le serial buteur guinéen de Dortmund qui plante 3 buts face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Victoire, mais pas suffisant pour se hisser en demi-finale. Ça passe aussi ric-rac pour le PSG. Une 20aine de pays et d'organisations internationales promettent donc d'apporter des centaines de millions de dollars pour soulager les souffrances des populations soudanaises. C'était le vœu principal de la conférence de Londres qui se tenait hier à l'occasion du 2e anniversaire de la guerre qui ravage le pays. Conférence humanitaire organisée sans les parties belligérantes du conflit, mais avec tout de même plusieurs pays de la région dont certains sont accusés de soutenir l'un ou l'autre des deux camps. Emeline Vin, on retient d'abord cette promesse d'assistance financière.
Un chiffre pour résumer la conférence de Londres, plus de 800 millions d'euros. C'est la somme promise par le Royaume-Uni, l'Union européenne et ses membres et les autres participants pour soutenir l'assistance humanitaire au Soudan, principalement par des colis alimentaires et du soutien pour les victimes de violences sexuelles. L'aide financière, c'était le premier objectif de cette réunion internationale, le plus facilement mesurable aussi. Deuxième but, remettre le Soudan dans l'actualité. Le chef de la diplomatie britannique a invité les participants à ne pas se résigner à un conflit inévitable. Et c'était le dernier objectif, faire progresser le processus de paix. Alors personne ne s'attendait à un accord de cessez-le-feu dès ce mardi. D'ailleurs, ni l'État soudanais, ni les paramilitaires des FSR n'étaient représentés. Mais des partenaires de chacune des parties avaient été invités. Par exemple, l'Égypte, le Kenya ou encore les Émirats arabes unis soupçonnés d'armer les FSR. Les partenaires occidentaux devaient saisir l'occasion pour faire preuve de diplomatie patiente, selon la formule du ministre britannique des Affaires étrangères, qui espère que le conflit aura évolué vers la paix d'ici un an. Emeline Van Londres, RFI.
Diplomatie patiente. Mais en attendant, la guerre fait toujours rage sur le terrain. Les combats sont particulièrement violents depuis une semaine dans les provinces du Darfour, dans l'ouest du Soudan. Les FSR sont accusés d'avoir fait des centaines de victimes civiles en pilonnant le camp de déplacés de Zamzam, le plus grand du pays. Il accueille 500 000 personnes, où il accueillait parce que ce camp est désormais quasi vidé de ses populations. Pourquoi donc attaquer ainsi un camp de déplacés? Parce que les troupes du général Emeti le voient comme le verrou de la ville d'El Fasher toute proche. C'est ce que nous disait hier Jérôme Toubiana, conseiller aux opérations de Médecins Sans Frontières. Il était l'invité de RFI.
Zamzam, c'est un camp de déplacés qui est à une dizaine de kilomètres de la ville d'El Fasher. Et c'est la ville d'El Fasher qui est l'objectif des forces de soutien rapide. C'est la seule grande ville du Darfour qu'ils ne contrôlent pas encore. Donc ils assiègent cette ville depuis 1 an, mais ils n'ont jamais réussi à la prendre. Leurs attaques quasi quotidiennes ont toujours été repoussées par les défenseurs d'El Fasher, qui incluent l'armée, mais surtout qui incluent beaucoup de civils qui se sont mobilisés, qui ont pris les armes pour défendre leur ville. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils se sont reportés sur le camp de Zamzam, en accusant le camp d'être une base arrière, voire d'être militarisé. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Il y a certes des défenseurs aussi à Zamzam, mais voilà, il s'agit simplement de civils mobilisés pour défendre leur communauté. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce sont ces communautés aussi, en particulier la communauté Zarawa, qui est très impliquée dans la défense de Zamzam et El Fasher, qui est prise pour cible. Et d'où ces morts, mais aussi un déplacement massif de la population.
Jérôme Toubiana, conseiller aux opérations de MSF. Autre annonce, hier encore des forces de soutien rapide. Le général Emeti qui fait savoir sur son compte Telegram qu'il met en place son propre gouvernement, qui qui va lancer d'ailleurs une nouvelle monnaie ainsi qu'une nouvelle carte d'identité à travers le Soudan. Enfin, autre position internationale hier pour les 2 ans de cette guerre, les pays membres du G7 qui appellent à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ils demandent également, je cite, aux acteurs extérieurs de cesser tout soutien qui alimente davantage le conflit, ainsi qu'aux groupes sur le terrain d'éliminer les obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire.
Afrique Matin sur RFI.
L'Union africaine a définitivement validé la nomination de Faure Gnassingbé comme médiateur dans la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous l'entendiez ces derniers jours peut-être, le président togolais reçoit donc la tâche complexe de ramener à de meilleurs sentiments le Congo et le Rwanda. Kinshasa, on le rappelle, accuse Kigali de soutenir les rebelles de la FCM-23 qui contrôle de larges parties des provinces des Kivu dans l'Est du pays. Pourquoi donc avoir choisi un président ouest-africain? Pourquoi Faure Gnassingbé en particulier? Et comment va-t-il articuler son rôle avec celui du Qatar, qui a déjà permis des rencontres haut placées dans ce dossier? Élément de réponse avec Patient Ligodi.
Selon plusieurs sources diplomatiques, il fallait un médiateur consensuel, non directement impliqué dans la crise. C'est ce qui a orienté le choix vers le Togo, un pays qui ne fait pas partie de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, ni de la communauté des développements d'Afrique australe, SADC, ni de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Autre atout de Faure Gnassingbé, renseigne-t-on, ses relations équilibrées avec les deux parties. Il entretient des liens cordiaux avec Félix Tshisekedi, comme avec Paul Kagame, ponctué de visites à Kinshasa et à Kigali. Un profil de médiateur jugé acceptable des deux côtés. Mais quelles marges de manœuvre lui sont offertes alors que le Qatar mène déjà une médiation à Doha entre les délégués de la FCM 23 et ceux du gouvernement congolais? Des diplomates consultés écartent l'idée de concurrence entre les deux processus. Ils parlent plutôt de complémentarité. Doha est perçu comme une puissance capable de débloquer les discussions, contrairement à une Union africaine jugée parfois lente et bureaucratique. L'idée serait donc la suivante: le Qatar pose les bases, puis Faure Gnassingbé prend le relais au nom de l'Union africaine pour accompagner la suite du processus. Il ne sera pas seul, un cadre d'accompagnement est envisagé avec la participation de partenaires internationaux comme l'ONU, la MONUSCO, l'Union européenne, les États-Unis, mais aussi l'EAC et la SADC.
À Patient Ligodi, ce sont d'autres tensions diplomatiques qui repartent de plus belle après une très brève semaine d'accalmie. La France annonce l'expulsion de 12 agents algériens, mesure présentée comme strictement symétrique à celle qu'a prise Alger dimanche soir, puisque 12 agents français ont également été priés de quitter le territoire. Hier soir, ils étaient d'ailleurs en route vers la France, selon l'agence France Presse. On se renvoie de nouveau coup pour coup, Magali Lagrange, des deux côtés de la Méditerranée.
Les autorités algériennes ont fait le choix de l'escalade pour le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. 12 agents consulaires et diplomates algériens vont donc être expulsés par la France. Une réponse symétrique, selon la présidence française, à l'expulsion par l'Algérie de 12 de ses fonctionnaires. Décision que Paris juge injustifiée et incompréhensible. Dans le communiqué publié hier soir, l'Élysée annonce aussi le rappel pour consultation de son ambassadeur à Alger. Alors que Paris accuse l'Algérie d'être responsable de cette nouvelle dégradation brutale des relations bilatérales, Alger met en avant sa souveraineté. Les autorités algériennes ne décolèrent pas depuis l'arrestation en France vendredi d'un de leurs agents consulaires. Arrestation dont elles tiennent pour responsable le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui jugeait hier soir la réponse française totalement appropriée. Si le président français Emmanuel Macron a donc finalement haussé le ton hier soir, après avoir d'abord temporisé, l'Élysée ne ferme pas la porte à la discussion. L'intérêt même de la France et de l'Algérie et de reprendre le dialogue, conclut son communiqué.
Magali Lagrange à 5h39 à Paris, une heure de plus à Dar es Salaam. Et cette question maintenant dans ce journal: que se passe-t-il donc au large de ce port tanzanien? Ces navires de guerre qui croisent depuis 3 jours dans les eaux territoriales, tout ceci est un exercice, mais c'est surtout une grande première. Il s'agit des grandes manœuvres navales inédites que l'Inde organise pour la première fois cette année avec une dizaine de pays côtiers et insulaires est-africains. Exercice maritime pour renforcer la coopération et la lutte contre la piraterie dans la région. Il s'agit aussi pour l'Inde de montrer à la Chine qu'elle n'est pas seule dans l'océan Indien. RFI Bangalore, Combastin.
Les exercices ont commencé le 13 avril dans le port de Dar es Salaam où l'Inde a dépêché un destroyer, un navire de débarquement de chars et un patrouilleur. On compte aussi 4 navires de la marine tanzanienne ainsi qu'une unité navale spéciale du Kenya dédiée aux interceptions. Participent à ces manœuvres l'Afrique du Sud, les Comores, Djibouti, l'Érythrée, Madagascar, Maurice, le Mozambique et les Seychelles. Après des entraînements portuaires, la phase en mer s'ouvre ce mercredi avec des exercices anti-piraterie, de recherche et sauvetage et des opérations héliportées. Abhishek Mishra est chercheur associé au MPIDSA, un centre d'études du ministère de la Défense indien. Il en explique l'importance pour New Delhi.
La côte est de l'Afrique fait partie de notre stratégie indo-pacifique. Notre principal objectif dans la région est la sûreté de sa marine marchande. Les attaques houthis de l'année dernière nous en ont rappelé l'urgence. C'est aussi garantir l'approvisionnement énergétique de l'Inde, qui est dépendante de pays africains pour les hydrocarbures. Enfin, une très importante diaspora indienne est installée ici.
Cette opération inédite devrait être reconduite l'année prochaine dans un autre pays d'Afrique de l'Est. Combastin, Bangalore, RFI.
On connaissait le trafic d'ivoire, de cornes de rhinocéros, de pangolins, de singes, voire de peaux d'âne. Mais celui qui vaut une arrestation et une détention pour 4 personnes au Kenya est plus surprenant et plus rare. 4 personnes arrêtées donc pour trafic de fourmis. Des milliers de fourmis vivantes destinées à être vendues à des collectionneurs européens ou asiatiques. 2 jeunes ressortissants belges et 2 Kenyans arrêtés entre Nakuru et Nairobi. Alban Tiroir nous raconte.
Les photos partagées par les autorités kenyanes montrent des centaines d'éprouvettes et de serins contenant des fourmis vivantes avec des boules de coton pour les maintenir en vie. Plus de 5000 insectes ont été saisis pour une valeur estimée à 7 800 $. Parmi les fourmis, des mésorcéphalotes, une espèce très prisée par les collectionneurs de par sa couleur rouge, la taille de sa reine allant jusqu'à 24 mm et ses capacités à former des colonies très nombreuses. Mais au Kenya, les animaux sauvages, dont les insectes, sont strictement protégés. Tout commerce nécessite des permis que ne possédaient pas les 4 trafiquants arrêtés. L'autorité de gestion de la vie sauvage dénonce un crime grave et une opération préméditée. L'agence gouvernementale note une évolution inquiétante du trafic, passant des mammifères emblématiques à des espèces moins connues mais essentielles à l'équilibre écologique. En 2023, 3 personnes avaient déjà été arrêtées au Kenya après avoir tenté d'exporter illégalement des fourmis vers la France. Les 4 personnes arrêtées récemment ont toutes plaidé coupables. Les 2 Belges, âgés de 19 ans, ont assuré ne pas savoir que la collecte de fourmis sauvages était illégale. Alban Tiron, Nairobi, RFI.
Une nouvelle soirée de foot à vivre ce soir sur la radio du Monde. Le Real Madrid reçoit Arsenal, 19h temps universel. Après la cuisante défaite 3-0 du quart de finale, allez, l'Inter Milan est plus en confiance. En revanche, en recevant les Bavarois du Bayern, puisqu'ils ont remporté la première rencontre 2-1. En attendant, dès hier soir, 2 équipes ont déjà validé leur billet pour le dernier carré de cette Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui s'est fait une grosse frayeur en s'inclinant 3-2 après avoir mené 2-0. Tandis que les Barcelonais retrouvent les demi après 6 ans d'absence, malgré leur défaite 3-1 face au Borussia Dortmund, malgré le triplé exquis de Serhou Guirassy. Éric Mamrut.
Jamais il n'avait signé un triplé en Ligue des Champions. Serhou Guirassy l'a fait ce mardi soir, de surcroît face au Grand Barça, effaçant ainsi sa prestation médiocre du match aller perdu 4-0. Son premier but est une panenka délicieuse marquée sur pénalty dès la 11e minute. Le deuxième, juste après la pause, d'une tête à bout portant suite à une remise de son coéquipier Rami Bensebaïni. 2-0, le Borussia Dortmund avait entamé sa remontada, mais le défenseur algérien brisait dans la foulée la dynamique allemande en marquant contre son camp. Cela n'empêchait pas l'insatiable attaquant guinéen de tromper une nouvelle fois Szczęsny de près. Score final 3-1 et un épatant triplé inutile finalement pour Guirassy, qui certes reprend la tête du classement des buteurs de cette édition avec 13 réalisations, mais qui n'empêche pas le Barça de retrouver 6 ans après le dernier carré de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain disputera quant à lui sa 4e demi-finale depuis 2020, malgré sa défaite face à Aston Villa. Vainqueur 3-1 à l'aller, le club parisien a mené 2-0 à Birmingham grâce à Hakimi et Nuno Mendes, avant de se relâcher totalement, encaissant 3 buts coup sur coup. Le PSG finalement battu 3-2, mais qualifié, qui garde intact son rêve de décrocher sa première Ligue des Champions.
Éric Mamrut, merci beaucoup. Toute l'actualité sportive, c'est dans une heure. Premier journal complet avec Antoine Grenier.
Afrique Matin sur RFI.
Il est juste 5h44 à Paris, un mot de la suite. Avec un petit séisme ressenti lundi soir dans le nord de la Réunion, c'est à la une du journal de la première. L'Australie qui essaye de profiter des restrictions d'exportation de terres rares décidées par la Chine. Le Sénégal qui boucle haut la main un grand emprunt financier auprès de ses populations. Chronique des matières premières et dossier Afrique Éco dans les prochaines minutes. Mais le reportage de la rédaction d'abord pour une troisième et dernière escale autour du Soudan à la rencontre des réfugiés qui échappent ou qui tentent d'échapper aux violences. Nous étions hier au Kenya où certains parviennent à se reconstruire un quotidien à peu près stable. Ce qui semble en revanche impossible au Soudan du Sud. C'est sans doute l'exemple le plus marquant d'une guerre qui fracture toute la région. Le voisin du Soudan est pris en tenaille. Les deux belligérants soudanais sont suspectés d'être soutenus par diverses factions et ethnies du voisin du Sud. Résultat, des violences éclatent parfois aux abords même des camps de civils réfugiés. C'était encore le cas à Gorom il y a 10 jours. Sur place pour RFI, Florence Mietto.
Coiffé d'un foulard rose pâle, Amira Adam Bachar, 20 ans, a fui l'enfer d'Al-Fasher, cette ville du Darfour assiégée par les paramilitaires FSR. Elle est arrivée à Djouba une semaine seulement avant qu'éclatent les violences visant les Soudanais mi-janvier.
La police nous a protégés puis nous avons été amenés ici à Gorom. Nous sommes enregistrés comme réfugiés urbains, donc nous ne recevons aucune aide. Nous n'avons presque rien à manger ni à boire et mon frère qui vendait du charbon pour nous soutenir a été blessé dans les violences. Maintenant il ne peut plus travailler. Nous avons besoin d'aide.
L'histoire de Nouha Abdallah Mohamed, 34 ans, est tout aussi terrible. La mère de deux enfants a fui les attaques des FSR à El Geneina, au Darfour Ouest, et rejoint son mari établi à Djouba comme commerçant. Mais leur magasin a été complètement pillé lors des émeutes contre les Soudanais. La famille s'est réfugiée à Gorom et a été à nouveau terrifiée par les combats entre forces sud-soudanaises qui ont eu lieu près du camp récemment.
J'aimerais pouvoir quitter le Soudan du Sud, mais je n'en ai pas la capacité, car c'est insupportable de fuir une guerre, de venir à pied d'un pays à l'autre, pour ensuite se retrouver à vivre encore la même chose, à entendre à nouveau les mêmes sons de tirs et de bombes. Nous ressentons beaucoup de peur et d'insécurité.
Originaire de Niala, dans le Darfour Sud, Azza Haroun Nourain, 40 ans, a la lourde charge de s'occuper de sa fille Ikram, 16 ans, qui a perdu une jambe dans le conflit soudanais.
Avant le début de la guerre, nous vivions bien à Niala. Quand le conflit a débuté, nous sommes restés enfermés chez nous. Mais un jour, une bombe est tombée sur la maison et a tué ma fille et mon neveu. Ikram, elle, a été grièvement blessée.
La famille a fui en août 2023 et c'est à Djouba qu'Ikram a été amputée de sa jambe gauche. L'adolescente garde de lourdes séquelles et a des cicatrices et des éclats d'obus un peu partout sous la peau. Elle ne peut être scolarisée.
Je ne peux pas aller à l'école parce que je ne peux pas marcher, même avec des béquilles. Donc je reste tout le temps dans notre abri. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la guerre s'arrête au Soudan et au Soudan du Sud. Et il faut penser à ceux qui ne peuvent pas fuir quand il y a du danger, comme moi qui ai perdu ma jambe. Je ne peux aller nulle part. Nous voulons vivre en sécurité, c'est tout.
Cette semaine, Ikram a rendez-vous au centre de réhabilitation physique du Comité international de la Croix-Rouge à Djouba, où elle espère apprendre à marcher à nouveau à l'aide d'une prothèse. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Trois reportages autour de cette guerre et de la situation qu'elle implique pour les déplacés du conflit que vous réécoutez sur notre application dédiée RFI Pure Radio, 3h48 en temps universel.
RFI, toute l'actualité. Édouard Dupenoit.
Quelques lignes de l'actualité internationale de ce 16 avril et Donald Trump d'abord, qui ouvre une enquête sur les effets sur la sécurité nationale de l'importation de minerais critiques comme le cobalt, le lithium et le nickel ou encore les terres rares, ainsi que les produits dérivés comme les smartphones ou les véhicules électriques. Cette enquête est une première étape qui pourrait permettre au président américain de publier un décret imposant des droits de douane. Après plus de 3 ans de négociations, les pays membres de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, approuvent un accord qui vise à mieux se préparer et à lutter contre les futures pandémies. Un texte qui prévoit des transferts de technologies d'un commun accord et la création d'un système d'accès aux vaccins ou aux tests qui établit un réseau mondial de chaînes d'approvisionnement et de logistique. L'ancien président péruvien Ollanta Humala, condamné à 15 ans de prison pour blanchiment d'argent dans le cadre du scandale de corruption internationale lié au géant brésilien Odebrecht. Il a conduit sous les verrous des dizaines de dirigeants politiques et de chefs d'entreprise. Et puis le parquet national antiterroriste en France, qui cherche à identifier les auteurs d'une série d'attaques contre plusieurs prisons. Elles ont été ciblées depuis dimanche par des incendies de véhicules et même par des tirs d'armes lourdes de Kalachnikov, la prison de Toulon en l'occurrence. L'Assemblée nationale sénégalaise saisie d'un projet de loi qui permettrait à terme de juger l'ancien président Macky Sall pour haute trahison dans la foulée du scandale de la dette cachée. On y reviendra dans nos éditions ce matin. En attendant, l'État sénégalais se finance auprès de ses citoyens. Dakar a lancé une levée de fonds à hauteur de 150 milliards de francs CFA, près de 229 millions d'euros, et l'opération a été un franc succès. Une semaine avant la fin prévue de la récolte, la somme de 400 milliards a été amassée. Certains y voient leur avantage grâce au taux d'intérêt promis par le Trésor public. C'est le dossier Afrique Éco du jour avec Juliette Dubois.
Saisissez une opportunité d'investissement sécurisée avec l'État, pouvait-on lire sur les téléphones de clients de la Société Générale au Sénégal ces dernières semaines. Devant une banque du centre-ville, beaucoup de Dakarois sont séduits par l'idée de prêter de l'argent à l'État. Abdourahmane Sow est standardiste.
Si c'est pour aider, il n'y a pas de problème. C'est le patriotisme, donc je le ferai volontiers.
Cette levée de fonds intervient alors que la dette atteint plus de 100% du PIB, 25 points de plus que ce qui avait été avancé par le régime sortant. Pour Charles, chauffeur coursier, cela fait une raison de plus pour investir dans ces bons.
La situation du pays, là, c'est l'ancien régime qui nous a mis dans cette situation-là, mais pas le régime actuel. Nous tous, nous savons que le Sénégal traverse des moments difficiles. Et c'est à nous, la population, de pouvoir soutenir ce nouveau pouvoir pour qu'on aille de l'avant.
Les taux d'intérêt vont de 6,4 à 6,95% et les bons sont à 10 000 francs CFA l'unité. Mais Yelaba, qui travaille dans la logistique, ne voit pas l'intérêt pour les particuliers.
Je me dis que pour peut-être 1 million, le rendu sur 3 ans, ce n'est pas vraiment intéressant pour moi. Maintenant, je me dis que peut-être pour ceux qui ont vraiment un gros capital, peut-être que ça pourra les intéresser. Mais bon, pour moi, je vais passer.
L'État sénégalais a souvent recours à ce type d'emprunt, mais la situation est particulièrement tendue aujourd'hui. Après les révélations de la Cour des comptes, la note du Sénégal a été abaissée 2 fois par l'agence de notation Moody's et le programme du FMI suspendu. Il faut donc diversifier les sources de financement. Abdou Radredienne, professeur d'économie à l'université Cheikh Diop de Dakar.
C'est sûr que l'emprunt extérieur demanderait des taux de plus en plus élevés parce que les bailleurs de fonds, les investisseurs vont prendre en charge effectivement des situations risquées. Donc en passant par le marché de l'UEMOA, effectivement par le marché des titres publics, l'État peut bénéficier des ressources longues.
Pour Eliman Khan du think tank Lexafrica, un emprunt obligataire ou même la négociation d'un nouveau prêt avec le FMI ne sont pas les stratégies les plus soutenables pour redonner des moyens à l'État.
Je pense que visiblement c'est plus des économies que peut faire l'État sur des lignes qui existaient déjà, sur des types d'investissements qui n'étaient pas très efficients, que l'État peut quand même souffler un peu.
La première phase du programme du président Bassirou Diomaye Faye pour la période 2025-2029 a été chiffrée à 18 000 milliards de francs CFA, soit plus de 28 millions d'euros. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Il est juste 3h52 à Dakar. Et l'actualité des matières premières regarde du côté de l'Australie, l'île continent qui essaye de jouer sa carte en matière d'extraction et de commerce de terres rares depuis que la Chine a annoncé des restrictions à l'exportation ces dernières semaines. Pour ce qui est des réserves, l'Australie semble avoir les moyens de ses ambitions, reste encore un gros point noir, mais qui est le même d'ailleurs partout dans le monde, celui du raffinage de ces matériaux où personne n'est encore en mesure de concurrencer Pékin. Chronique de Marie-Pierre Olfan.
Le pays se positionne depuis plus de 10 ans comme un fournisseur clé de métaux et notamment de terres rares. Il en est même devenu un producteur majeur. En 2022, l'Australie était même classée 6e pour ses réserves. Cela n'a pas échappé aux investisseurs qui soutiennent les grands noms du pays qui exploitent déjà ces minerais. Les restrictions chinoises à l'exportation annoncées ces derniers jours ont ouvert une brèche dans ce marché très fermé. Les acteurs australiens du secteur entendent bien en profiter. Certains assurent même être idéalement positionné pour répondre à la demande toujours plus grande. L'extraction se développe, les projets miniers sont en pleine expansion, mais les infrastructures de raffinage n'en sont pas au même point. Le traitement de certaines terres rares australiennes dites légères se développe aussi, mais à l'étranger. La principale compagnie du secteur a ainsi bénéficié de fonds japonais pour investir en Malaisie et purifier sa production australienne. Cette même société est aussi soutenue par le ministère américain de la Défense et construit actuellement la première usine de raffinage de terres rares lourdes en dehors de Chine, au Texas. Sur le sol australien, une telle usine pourrait voir le jour, mais seulement en 2027. Raffiner les terres rares lourdes en dehors de Chine est plus que stratégique, car ces minerais sont essentiels pour fabriquer des aimants capables de résister à de très hautes températures, aimants utilisés dans le secteur militaire, éolien ou encore automobile. Pour l'instant, la Chine exerce donc toujours un quasi-monopole. Cela veut dire que les 3 grammes de terres rares de votre smartphone, les 2 ou 3 kilos de votre véhicule électrique ou les centaines de kilos que l'on trouve dans une éolienne ont très certainement transité à un moment par la Chine, même s'ils ont été extraits ailleurs.
Marie-Pierre Olfan pour l'actualité des matières premières. Ultime escale, enfin par les territoires français de l'océan Indien. La Terre a tremblé avant-hier soir à l'île de la Réunion. Petit séisme, 2,4 sur l'échelle de Richter, certes. Mais séisme tout de même. Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour. Il était 20h04 en heure locale. La secousse a été ressentie par de nombreuses personnes, mais rien de bien méchant au final. Et surtout, rien de très étonnant. Dans une île créée par un volcan toujours très actif, la directrice de l'Observatoire volcanologique de la Réunion, Aline Pelletier, était ce mardi matin en direct dans le journal radio de la Première. Elle répondait aux questions de Cécile Thomas.
Ce phénomène qui a été enregistré notamment sur nos stations du nord de l'île. Et un deuxième, celui-ci n'avait pas été ressenti, mais 8 minutes après, donc qui montre qu'on a toujours donc cette fracture sous la roche écrite qui est bien active, comme on le voit chaque mois. On a été alerté très vite. Hein, au moment du séisme, le téléphone et les réseaux sociaux se sont agités. Et donc effectivement, toutes les personnes qui ont ressenti ce séisme peuvent témoigner sur France Séisme. Donc il y a une page qui a été ouverte, et ce qui permet de voir un petit peu où le séisme a été ressenti. Pour l'instant, c'est principalement donc au nord de l'île, hein, puisque l'épicentre est au niveau de la roche écrite. On a également des témoignages au niveau de la montagne, Salazie, Mafate. Vous me dites également Sillaos. C'est possible, hein, puisqu'il y a des fois des effets de site qui font que les ondes se propagent mieux et que les gens peuvent ressentir de manière plus efficace un tremblement de terre. Il y a une faille qui est bien connue maintenant de l'observatoire, et cette faille rejoue régulièrement, hein, plusieurs fois par mois, hein, des fois jusqu'à 30-40 fois par mois, et quelquefois il y en a un qui est un petit peu plus fort, comme hier, comme au mois de mars. Il y avait déjà eu un ressenti au mois de mars, donc c'est quelque chose, on va dire, d'assez maintenant habituel pour la population. 3 ou 4 fois par an, on a un séisme ressenti sur cette fracture.
Aline Pelletier, rien de nouveau du côté du volcan ?
Alors, rien de nouveau du côté du volcan. On est toujours dans une phase de repos. Et pour l'instant, pas de signe avant-coureur d'une éruption.
Avant de quitter la Réunion et de s'envoler pour Mayotte, la ministre de la Transition écologique et de la Pêche, Agnès Pannier-Runacher, s'est rendue lundi à bord de l'Osiris 2, un navire chargé de patrouiller dans la zone sud de l'océan Indien. Dans son collimateur, la pêche, aussi destructrice qu'illégale, une action d'ailleurs menée en coopération avec d'autres pays de la zone. Reportage Stéphane Enilorac.
On a des chiffres très globaux, et comme toujours sur des phénomènes illégaux, on ne peut pas dire qu'on détient les chiffres, mais c'est plus de 10 milliards d'euros qui est en jeu, donc c'est assez considérable.
Un manque à gagner conséquent, selon la ministre Agnès Pannier-Runacher, qui pousse la France et les autres pays de la région à renforcer encore leur coopération contre la pêche illégale.
Sur une zone qui est aussi large que celle qui est contrôlée, il est important d'avoir le maximum de données d'informations, qu'elles soient satellitaires, qu'elles soient communiquées par d'autres acteurs, par les pêcheurs aussi.
De nombreuses informations dont le traitement peut être optimisé grâce à l'intelligence artificielle, un outil qu'il ne faut pas négliger, selon le ministre de la Pêche mauricien, Arvin Boulel.
Le plan régional de surveillance donne des résultats, mais quand même, il y a un long chemin à parcourir. Avec la technologie, on peut faire bouger les choses d'une façon beaucoup plus cohérente, parce qu'il faut qu'il y ait la prévisibilité et la certitude.
Il serait possible également d'intervenir bien plus rapidement, estime Philippe Nédélec, capitaine à bord de l'Osiris 2.
C'est un petit peu obsolète le matériel qu'on a. Le temps de route entre la Réunion et le canal du Mozambique, c'est 5 jours déjà. Ça fait 10 jours sur une mission qui va durer 30 jours. On pourrait peut-être avoir des bases avancées sur Mayotte ou augmenter la durée des missions.
Le départ de la prochaine mission d'un mois dans le canal du Mozambique est prévu le 22 avril.
Et puis à Mayotte, Agnès Pannier-Runacher a visité hier les locaux de Météo France pour un bilan de la saison cyclonique, saison évidemment marquée par le phénomène Chido. L'occasion pour la ministre d'annoncer la construction d'un nouveau radar dit de précipitation. Fin de cette édition. Bonne journée.
Et merci, bonne journée à vous aussi Benoît Ferrand. Merci à Thierry Lecin qui réalisait cette première demi-heure d'actualité africaine sur la radio du monde. Actualité africaine qui revient à 4h30 en temps universel. Vous serez avec Sébastien Duhamel. En attendant la réclame, une petite minute et Gaëtan Plenet pour l'info internationale. À tout de suite.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
la parentalité positive a le vent en poupe. Peut-on punir son enfant sans violence? Comment dire non avec bienveillance?
Demain,
à quoi ressemble le matin des gens qui se lèvent tôt? Est-ce un moment magique ou contraignant et éprouvant?
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Est-ce qu'on peut tout dire ou est-ce qu'on ne peut plus rien dire? Que signifie la liberté d'expression? Faut-il poser des limites ou au contraire dénoncer la police du langage? Dans son essai « Juger les mots », Anna Arzoumanoff s'intéresse au rôle de la justice pour réguler cette liberté fondamentale.
Écoutez de vive voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.